chapitre 19. Et ils vécurent heureux. Les 500 dernières années ont connu une série époustouflante de révolutions. La Terre est devenue une seule sphère écologique et historique. L'économie a connu une croissance exponentielle et l'humanité jouit aujourd'hui d'une richesse qui n'existait que dans les contes de fées. La science et la révolution industrielle ont donné à l'humanité des pouvoirs surhumains et une énergie quasi illimitée. L'ordre social a été entièrement transformé, tout comme la politique, la vie quotidienne et la psychologie humaine. Sommes-nous pour autant plus heureux? La richesse que l'humanité a accumulée au cours des 5 derniers siècles s'est-elle traduite par une satisfaction inédite? La découverte de sources d'énergie inépuisables nous a-t-elle ouvert des réserves de félicité intarissables? Pour remonter plus loin dans le temps, les quelques 70 millénaires écoulés depuis la révolution cognitive ont-ils rendu le monde plus agréable à vivre? Le regretté Neil Armstrong, dont l'empreinte de pas demeure intacte sur la Lune, qu'aucun vent ne balaye. Fut-il plus heureux que le chasseur-cueilleur anonyme qui, voici 30 000 ans, laissa l'empreinte de sa main sur une paroi de la grotte Chauvet? Sinon, à quoi rimait de développer l'agriculture, les cités, l'écriture, le monnayage, les empires, la science et l'industrie? Ce sont des questions que posent rarement les historiens. Ils ne se demandent pas si les citoyens d'Uruk et de Babylone étaient plus heureux que leurs ancêtres fourrageurs, si l'essor de l'islam a rendu les Égyptiens plus satisfaits de leur vie, ni en quoi l'effondrement des empires européens en Afrique a influencé le bonheur d'innombrables habitants. Ce sont pourtant les questions les plus importantes qu'on puisse poser à l'histoire. Les idéologies et les programmes politiques actuels reposent sur des idées assez minces quant à la source réelle du bonheur humain. Les nationalistes croient que le droit à l'autodétermination est la clé de notre bonheur. Les communistes postulent que tout le monde nagerait dans la félicité sous la dictature du prolétariat. Les capitalistes assurent que seul le marché peut assurer le plus grand bonheur du plus grand nombre en garantissant la croissance économique et l'abondance matérielle et en apprenant aux gens à compter sur eux-mêmes et à se montrer entreprenants. Et si une recherche sérieuse devait infirmer toutes ces hypothèses? Si la croissance économique et l'indépendance ne rendent pas plus heureux, quel est l'avantage du capitalisme? Et s'il s'avère que les sujets des grands empires sont généralement plus heureux que les citoyens des États indépendants et que, par exemple, les Ghanéens étaient plus heureux sous la domination coloniale britannique que sous leur propre dictature, que faudrait-il en conclure sur la décolonisation et la valeur du droit des nations à disposer d'elles-mêmes? Ce sont là autant de possibilités hypothétiques, parce que jusque-là, les historiens ont évité de poser ces questions, et à plus forte raison, d'y répondre. Ils ont étudié l'histoire d'à peu près tout. Politique, société, économie, genre, maladie, sexualité, alimentation, habillement. Mais se sont rarement donné le temps de se demander en quoi tout cela influence le bonheur. Si peu ont étudié l'histoire du bonheur sur la longue durée, presque chaque chercheur ou profane a de vagues préjugés à ce sujet. Dans une approche courante, les capacités humaines se sont accrues tout au long de l'histoire. Comme les hommes se servent généralement de leurs capacités pour soulager les misères et combler les aspirations, il s'ensuit que nous devons être plus heureux que nos ancêtres du Moyen-Âge, qui devaient être plus heureux que les chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre. Mais ce tableau progressiste est peu convaincant. On a vu que nouvelles aptitudes et nouveaux comportements ou talents ne rendent pas nécessairement la vie meilleure. Quand les hommes ont appris à cultiver la terre au cours de la révolution agricole, leur pouvoir collectif de façonner leur milieu s'est accru. Mais le sort de nombreux individus est devenu plus rude. Les paysans ont dû travailler plus dur que les fourrageurs pour vivoter avec une alimentation moins variée et moins nourrissante, tout en étant bien davantage exposés à la maladie et à l'exploitation. De même, l'essor des empires européens a considérablement accru la puissance collective de l'humanité, en faisant circuler idées, technologies et cultures, et en ouvrant de nouvelles voies au commerce. Mais tout cela n'était pas vraiment une bonne nouvelle pour des millions d'Africains, d'indigènes d'Amérique ou d'aborigènes d'Australie. Compte tenu de la propension notoire des hommes à abuser de leur pouvoir, il semble naïf de croire que plus de pouvoir implique nécessairement plus de bonheur. Certains critiques adoptent une position diamétralement opposée. Pour eux, il existe une corrélation inverse entre les capacités humaines et le bonheur. Le pouvoir corrompt, comme on dit, et en gagnant toujours plus de pouvoir, l'humanité a créé un monde froid et mécanique mal adapté à nos besoins véritables. L'évolution a adapté nos esprits et nos corps à la vie des chasseurs-cueilleurs. La transition agricole, puis industrielle, nous a condamnés à une vie contre nature, où nos inclinations et instincts naturels ne sauraient s'exprimer pleinement et où nos envies les plus profondes ne sauraient donc trouver satisfaction. Rien dans le confort de la vie bourgeoise urbaine ne saurait approcher l'excitation sauvage et la joie pure d'une bande de fourrageurs amateurs de mammouths qui ont fait bonne chasse. Chaque invention nouvelle nous éloigne un peu plus du jardin d'Éden. Les romantiques soulignent en particulier que le monde de nos sens s'est considérablement appauvri par rapport à celui de nos ancêtres. Les anciens fourrageurs vivaient dans l'instant présent, attentifs aux moindres bruits, aux goûts, aux odeurs, il y allait de leur survie. Nous autres, en revanche, sommes horriblement distraits. Nous pouvons aller au supermarché où nous avons le choix entre des milliers de produits. Mais quoi que nous choisissions, il est probable que nous l'avalerons à la hâte devant la télé, sans vraiment prêter attention au goût. Nous pouvons aller en vacances dans des milliers d'endroits plus stupéfiants les uns que les autres, mais où que nous allions, nous jouerons probablement avec notre smartphone au lieu de voir réellement les lieux. Nous n'avons jamais eu autant le choix. Mais à quoi bon ce choix quand nous avons perdu la capacité d'y faire réellement attention? Reste que ce romantisme qui s'obstine à voir le côté sombre de chaque invention est aussi dogmatique que la croyance au progrès est inéluctable. Peut-être avons-nous perdu le contact avec notre chasseur-cueilleur intérieur, mais ce n'est pas si mal. Au cours des deux derniers siècles, par exemple, la médecine moderne a réduit la mortalité infantile de 33% à moins de 5%. Peut-on douter que cela ait largement contribué au bonheur non seulement des enfants, qui seraient morts autrement, mais aussi de leurs familles et amis? Les plus nuancés s'en tiennent à une voie moyenne. Jusqu'à la révolution scientifique, il n'existait pas de corrélation claire entre pouvoir et bonheur. Sans doute, les paysans du Moyen-Âge étaient-ils plus misérables que leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs. Dans les tout derniers siècles, cependant, les hommes ont appris à utiliser leurs capacités à meilleur escient. Les triomphes de la médecine moderne n'en sont qu'un exemple. Parmi les autres acquis sans précédent, il faut citer la chute sensible de la violence, la quasi-disparition des guerres internationales et la quasi-élimination des grandes famines. Là encore, cependant, c'est simplifié à outrance. Premièrement, l'optimisme se fonde sur un tout petit échantillon d'années. La majorité des êtres humains n'a pas commencé à jouir des fruits de la médecine moderne avant 1850, et la forte chute de la mortalité infantile est un phénomène du XXe siècle. Les grandes famines ont continué à détruire une bonne partie de l'humanité jusqu'au milieu du siècle dernier. En Chine communiste, lors du grand bond en avant de 1858-1961, entre 10 et 50 millions d'êtres humains sont morts de faim. Les guerres internationales ne sont devenues rares qu'après 1945, essentiellement du fait de la menace nouvelle d'un anéantissement nucléaire. Dès lors, même si les toutes dernières décennies ont été un âge d'or sans précédent pour l'humanité, il est trop tôt pour savoir si cela représente un changement fondamental des cours de l'histoire ou un éphémère tourbillon de bonne fortune. Quand on juge la modernité, il n'est que trop tentant d'adopter le point de vue d'un occidental de la classe moyenne au XXIe siècle. N'oublions pas les points de vue d'un mineur gallois du XIXe siècle, d'un opiumane chinois ou d'une aborigène de Tasmanie. Truganini n'est pas moins importante qu'Homer Simpson. Deuxièmement, il n'est pas exclu que le court âge d'or du dernier demi-siècle ait semé les germes d'une catastrophe future. Durant les dernières décennies, nous avons perturbé l'équilibre écologique de notre planète d'une multitude de façons, avec des conséquences qui ont tout l'air d'être fâcheuses. De nombreux éléments laissent penser que nous détruisons les fondements de la prospérité humaine dans une débauche de consommation téméraire. Enfin, nous ne pouvons nous féliciter des réalisations sans précédent du sapiens moderne que si nous faisons l'impasse sur le sort de tous les autres animaux. Une bonne partie de la richesse matérielle tant vantée qui nous préserve de la maladie et de la famine a été accumulée aux dépens des singes de laboratoire, des vaches laitières et des poulets de tapis roulant. Au cours des deux derniers siècles, des dizaines de milliards ont été soumis à un régime d'exploitation industrielle dont la cruauté est sans précédent dans les annales de la planète Terre. Si nous acceptions juste un dixième de ce que réclament les défenseurs des droits des animaux, l'agriculture industrielle moderne pourrait bien être le plus grand crime de l'histoire. Quand nous évaluons le bonheur global, on a tort de compter le seul bonheur des classes supérieures, des Européens ou des hommes. Peut-être a-t-on également tort de ne penser qu'au bonheur des êtres humains.